When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Chapitre 4 des Mille et Une Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 4. Comment trois bosses tendit ses panneaux, et comment ils lui réussirent. L'apparition de la fée ne flatta pas d'abord le chasseur. Non qu'il fût timide, mais cela lui donnait des distractions qu'il n'était pas dans le cas de souhaiter. « Je suis, lui dit Trois-Bosses, une fée bienfaisante. »« Ah, tant mieux, lui dit-il, vous venez fort à propos. Sauriez-vous qui est cette belle personne dont je tiens le portrait ?»« C'est, reprit la fée, quelqu'un qui vous aimera tendrement. »« Moi ? Dit Gracieux. Et où avez-vous lu cela ?» « Je le sais, répliqua-t-elle. Je sais même quelque chose de plus. C'est qu'il ne tiendra qu'à vous d'être heureux. Mais il faut suivre mes conseils. »« Comment ? Les suivre ? Dit Gracieux. J'irai au centre de la terre. »« Il ne faudra pas aller jusque-là, répondit la fée. Je m'appelle la fée Trop-Bonne. Il y a longtemps que je m'intéresse à votre bonheur. Et même si vivement, que je vous ai déjà ménagé un rendez-vous avec la belle que vous aimez. Mais soyez sage et discret. Un rien peut vous perdre. « Un rendez-vous ? » reprit Gracieux. « Ah, quand sera-ce, madame ?»« Écoutez, répondit la fée, un mot que j'ai à vous dire, et nous partons. Il faut bien vous prévenir sur ce que vous devez faire. « Ah ! » s'écria-t-il, « de grâce, madame, fiez-vous-en à ma conduite. Où faut-il aller ?» « Mais quelle pétulance ! » dit la fée. « Vous gâteriez tout. Songez que la belle dont le cœur vous est destiné est sous les yeux d'une mère bizarre, misanthrope, qui déteste foncièrement le genre humain. Si vous êtes aperçu, vous perdez en un moment le fruit de mes bontés, l'espérance d'être heureux et la vie. Je veillerai autour de vous pour écarter les dangers qui pourraient naître. Ah, que de bonté, madame ! S'écria Gracieux. Non, je donnerai tout le reste de ma vie à la reconnaissance. Mais permettez que je donne quelques moments à l'amour. La fée se rendit à ses instances et le transporta sous le berceau de jasmin, où Riante s'était déjà rendue. Dès qu'ils s'aperçurent, la conversation s'anima. Quoiqu'ils ne se fussent jamais vus, ils avaient bien des choses à se dire. Mais comme ils parlaient tous deux à la fois, et que je ne les ai pas entendus, dispensez-moi de rien répéter. D'ailleurs, les sentiments ne se peignent pas. Riante appela Gracieux son amant. Il en fut transporté de joie, il se jeta à ses genoux, lui baisa les mains, la rebaisa encore. Elle n'en fut point fâchée, elle ne lui dit point de se retirer. C'est ce qui fait douter si la pudeur est fille de la nature ou de l'éducation. Au milieu de tous ces transports, si bien reçus et même partagés, quand après s'être dit beaucoup, ses amants avaient encore tout à se dire, la fée enleva inhumainement le chevalier. « Hé, où m'emportez-vous, madame ? » lui dit-il. « Que ne me laissiez-vous où j'étais ? Ou pourquoi m'y conduisiez-vous ? » « Seigneur, lui répondit la fée, je faisais le guet à l'œil auprès du berceau où vous étiez. J'ai vu que quelqu'un s'en approchait. J'ai craint que vous ne fussiez découvert. » Il y va de la perte de l'objet de votre amour. car je ne vous parle pas de la vôtre, elle vous toucherait peu. Accordez-moi votre confiance, abandonnez-vous à ma conduite. Demain, vous reverrez l'aimable Riante. »
Je reverrai Riante ? Dit Gracieux. Ah, madame, me tiendrez-vous parole ? Ne sera-ce que demain ? Songez que je me meurs.
Il faut néanmoins vivre, reprit la fée. À ce propos, qui n'est pas trop consolant, si l'on veut, Gracieux entendit raison du mieux qu'il put. Le lendemain, Trois Bosses lui tint parole. Riante, qui par pressentiment s'était rendue au berceau de Jasmin, vit son amant avec transport. Mais à peine eut-il le temps de lui dire par quel moyen, pourquoi et comment il l'avait quitté la veille, que la fée les sépara.
« Ah ! Lui dit Gracieux, pour le coup, madame, cela est cruel. À peine l'ai-je entrevu. »
« Eh bien, seigneur, je vais vous y conduire, reprit la fée. La mère de Riante vous découvrira. On vous séparera pour toujours. »
Gracieux, après cette réponse, fut contraint d'en rester sur son désespoir. La méchante fée goûtait secrètement une maligne joie. Elle voyait approcher le temps de sa vengeance et mettait à profit les intervalles en commençant de faire insensiblement le malheur de l'innocent objet de sa haine. Pour comprendre quelque chose dans la conduite bizarre qu'elle tenait, il faut savoir que son dessein était d'enflammer les deux amants l'un pour l'autre de telle façon qu'ils fussent dans le cas de ne se plus reconnaître. À peine lui restait-il 8 jours pour conduire à fin cette intrigue. Elle faisait en sorte que, se voyant si peu, il ne s'expliquait sur rien et se souhaitait sans cesse. On sait combien les désirs s'irritent dans de telles circonstances. Il fallait que Trois Bosses ne fût pas ignorante dans l'art d'amener en peu de temps une passion à un honnête point de maturité. Déjà pour la 6e fois, elle avait conduit Gracieux au rendez-vous, et l'en avait tiré aussi mal à propos qu'il se puisse.
« Eh bien, vous voilà, madame, lui dit-il, dès qu'il put parler. Il semble que vous soyez jalouse du bonheur dont vous nous faites jouir. Accordez-vous avec vous-même, ou retranchez-moi ces bontés cruelles qui ne font qu'augmenter mon malheur et me laisser mourir. Ou, s'il est possible, souffrez que je devienne heureux. »
« Que vous êtes injuste, seigneur, reprit l'hypocrite d'un ton compatissant. Ignorez-vous combien ces prétendues cruautés vous sont salutaires ? Mais vous exigez une dernière preuve du penchant que j'ai à vous servir. Il faut vous la donner.
Vous pouvez être sans cesse auprès de Riante.
Je le pourrais ? S'écria Gracieux.
Oui, vous le pourriez, répondit la fée, puisqu'il dépend d'elle que cela soit.
Oh, si cela est, reprit-il, je suis sûr de mon fait.
Vous avez, répliqua la fée, trop de vanité pour un amant délicat. Apprenez à quel prix vous pouvez être heureux. Riante possède une baguette qui rend invisible ceux qui la tiennent dans la main gauche. Qu'elle vous la donne, vous serez sans cesse auprès d'elle, sans qu'on vous voie, sans même qu'on vous soupçonne. Mais Riante se dessaisira difficilement de ce trésor. Le bonheur de sa vie en dépend. On lui a défendu de le confier à qui que ce soit. Après tout, vous n'abuserez pas de la confiance ?
Oh, partons, dit Gracieux, Riante peut compter.
À ces mots, la fée, qui se doutait de ce que Gracieux allait dire, le transporta, sans l'entendre, au berceau de Jasmin.
Enfin, aimable Riante, dit Gracieux en s'avançant, il me serait donc permis de passer ma vie auprès de vous.
Quoi ? Cela serait possible ? Dit Riante.
Oui, cela l'est, répondit-il. La fée qui nous protège m'en assure. Il ne vous en coûtera qu'un peu de confiance. Le ciel m'est témoin combien je serais au désespoir de la trahir. Hélas, je me trahirai moi-même. La baguette que vous portez peut me rendre invisible à tous les yeux.
Ah, Gracieux ! Reprit Riante. C'est un conte que vous me faites ?
Ce n'en est pas un, reprit Gracieux. L'essai va vous en répondre. Prenez cette baguette de la main gauche.
La belle obéit.
Non, dit Gracieux, je ne vous vois point.
Et en effet, il ne la voyait point.
Notez, mesdames, que la fée lui avait fasciné les yeux. Ce n'est là qu'un tour de gibecière.
Se pourrait-il, dit Riante, que ma baguette eût cette vertu ?
Hélas, on m'avait bien dit de la conserver, que le bonheur de ma vie en dépendait, puisque je ne peux vous voir sans elle. » En disant cela, la belle se défaisit de sa baguette, tant il est vrai que l'amour ne sait rien refuser. Bientôt la scène changea de face. Trois Bosses arracha la baguette des mains de Gracieux et les transporta dans les airs. Elle reprit sa figure ordinaire. C'est la première mauvaise nouvelle qu'elle leur annonça. Son aspect les glaça d'effroi. « Reconnais ton ennemi, dit-elle à riante, insensé. Aurais-je donc travaillé pour ton bonheur? Va, suis-moi, tes disgrâces ne font que commencer. Et toi, dit-elle à Gracieux, malheureux jeune homme, éloigne-toi de ma vue. Je t'ai fait assez de mal en te mettant une passion inutile dans le cœur. Je suis contente de moi. » En disant ces mots, elle s'abattit sur la terre, et le laissant dans un pays inconnu, elle s'éloigna avec sa proie de toute la vitesse des esprits qui la portaient. Le joli petit caractère de femme. Y en aurait-il des copies? Fin du chapitre 4. Enregistré par Ezoy, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 5 des Mille et une fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 5. Où la fée Lirette trouva Gracieux, ce qu'elle lui dit, ce qu'il répondit, ce qu'elle reprit, ce qu'il répliqua, ce qu'il fit. Quand Rare apprit en quelle main sa fille était tombée, son désespoir n'eut plus de bornes. Il s'agissait pour elle de la perte d'un enfant chéri, objet unique de ses soins, de ses complaisances. Encore quelle façon de la perdre! La philosophie n'eut rien à dire à cela. Il faut qu'elle se taise quand le sang parle. « Ah, Lirette, Lirette !» disait Rare à sa protectrice. « Imaginez s'il se peut ce que je sens. Pouvez-vous m'aider dans mes malheurs? Ne me déguisez rien, n'épargnez rien. Est-il des risques à courir? C'est sur moi qu'ils retomberont tous. J'irai partout, j'affronterai tout. Hélas, que ne ferais-je pas pour délivrer ma fille? Mais vous ne me répondez rien. N'ai-je donc plus d'espoir? Ah, malheureuse mère! Calmez-vous, madame, lui répondit Lirette. Rien n'est encore désespéré. L'amour qui vous a ravi votre fille, ne peut-il pas vous la rendre? Il ne s'agit que de trouver Gracieux, de l'engager à délivrer son amante. Reposez-vous de ce soin sur moi, et tranquillisez-vous s'il est possible. » À ces mots, Rare, concevant un léger rayon d'espoir, se remit un peu, et Lirette, montant sur son char, courut chercher le chevalier dans les quatre parties du monde. Vous croiriez sans doute qu'il était bien difficile à rencontrer. Pas tant que vous l'imagineriez, mesdames. Il est des règles sûres pour trouver les amants malheureux. Il leur faut toujours des échos à qui parler. Les voilà dès lors même nécessairement exilés de tout le plat pays. Suivant ce principe, Lirette, en parcourant les montagnes, aperçut enfin le beau chasseur qui rêvait profondément au bord d'une fontaine. Il tenait à la main un papier qu'il lisait avec tant d'attention qu'il ne voyait pas encore la fée, quoiqu'elle fût déjà devant lui depuis longtemps. Enfin, elle prit le parti de lui parler. « Gracieux, lui dit-elle, je suis une fée de vos amis. »« Une fée ? » reprit-il. « Eh bien, maudite soyez-vous, vous et toute votre race, Gracieux !» répliqua la fée. « Il faut savoir maudire avec discernement et distinguer les amis des ennemis. »« C'est-à-dire, reprit brusquement le chevalier, que vous venez de nouveau vous divertir à mes dépens. » « Tenez, madame, vous prenez la figure qu'il vous plaît, c'est à vous à qui je dois le malheur de ma vie. Je vous reconnais à votre ton doucereux. Retirez-vous, ne me forcez pas à vous manquer de respect. Je n'ai pour toutes armes ici que des pierres sous mes mains, mais je m'en sers à merveille, et vous pourriez vous en sentir, toute puissante que vous êtes. Gracieux, reprit encore une fois la fée, votre défiance ne m'offense pas. Parce que je compte que bientôt vous changerez de langage avec moi. Je sais la manœuvre indigne dont s'est servie une de mes compagnes pour vous plonger dans le malheur où vous êtes. je viens vous témoigner la compassion que vous me faites. Mais ce n'est pas une compassion feinte et stérile. Je viens vous engager à délivrer Riante et vous en faciliter les moyens. » Ce discours de la fée fit sur Gracieux l'effet qu'elle en attendait. Un amant ne saurait se refuser à l'espérance. « Ah, madame, dit-il en embrassant les genoux de Lirette, que ne vous devrais-je pas ? Levez-vous, lui dit la fée. Ne perdez pas ici votre temps en transports inutiles. Mais quel est ce papier que vous lisiez avec tant d'attention ?
Je vous avouerai, madame, répliqua-t-il, que depuis le moment où l'on m'a si cruellement séparé de Riante, ne comptant sur aucun secours, je ne me suis occupé que des moyens de la recouvrer. On parle dans ces cantons d'un homme qui rend des oracles. J'ai été à lui. Et que vous a-t-il dit ?
Interrompit la fée.
Il m'a conseillé, poursuivit Gracieux, de me rendre au marché de la ville prochaine, les doigts dans mes oreilles, de les ouvrir et fermer 6 fois à temps égaux, en observant les intervalles, et de recueillir ce que j'entendrais. Je l'ai recueilli, je le lisais, je n'y comprends rien. Mais vous, madame, qui savez tout, expliquez-le-moi, je vous prie.
Toé, gui, farenum, coq, terre.
Que cela veut-il dire ?
Rien du tout, reprit la fée.
Et avez-vous payé chèrement cet oracle ?
3 pièces d'or, répliqua Gracieux.
Et quand concluriez-vous ?
Qu'on vous en a donné pour votre argent, dit la fée.
Ah, je vous assure, madame, s'écria le chevalier, que le marchand d'oracle n'aura les oreilles coupées que de ma façon.
Voilà, reprit la fée, un courroux déplacé, comme si vous n'aviez rien de mieux à faire.
Mais le temps se perd. Vous sentez-vous bien du courage ?
Si je m'en sens, madame !
Oh, je ne doute pas que vous ne soyez content de vous. Vous êtes d'âge et de profession à cela. Mais il s'agit ici de choses si sérieuses que c'est à vous de vous examiner. Pour retrouver l'aimable Riante, il ne faut pas vous arrêter un seul moment. Quelque danger qui se présente, quelque besoin que vous ayez de repos, quelque faim, quelque soif que vous ressentiez.
N'est-ce que cela, madame ? Interrompit Gracieux.
Ah ! Reprit la fée, si cela vous semble peu de chose, c'est tant mieux pour nos projets. Vous pouvez partir dans le moment. Je vais pourvoir à votre équipage. En disant cela, la fée frappa la terre de sa baguette. Il en sortit un cheval harnaché. « Tenez, lui dit-elle, prenez cette monture de ma main. Elle est infatigable. Songez seulement à vous maintenir dans les périls où elle pourrait vous engager, même sans votre aveu. » À peine le cheval eut-il paru, que Gracieux, sautant légèrement en selle, prit congé de la fée et partit même sans savoir où il allait. Heureusement pour lui, le cheval fée savait sa route. Le chevalier ne fit que plus de 3 heures après son départ la réflexion qu'il avait manqué à demander où il devait aller. Question qui ne laissait pas d'être essentielle. Mais ne s'apercevant de son étourderie que lorsqu'il n'y avait plus de remède, il prit dans ces circonstances le parti le plus court. Ce fut celui de se recommander à l'amour qu'il servait si bien. Fin du chapitre 5. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008.
Chapitre 6 des Mille et une Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 6. Comment le chevalier acquit de la gloire à grand marché et du profit qui lui en vint. Le commencement de la route de notre voyageur n'eut rien que de commun. Il suivait un chemin fort fréquenté, mais la nuit venant à tomber, il commença à s'apercevoir que sa façon de voyager n'était pas des plus commodes. Il était en effet une manière de chevalier errant d'une espèce assez singulière. Encore les autres pouvaient-ils entrer dans quelque château, dormir à l'ombre des forêts. Lui ne pouvait s'arrêter nulle part. Tellement que sur le soir, la faim venant à le presser, il ne laissa pas de regretter certains fruits sauvages qu'il avait trouvés sur sa route et dédaignés par délicatesse apparemment.
Il resta donc sur son appétit jusqu'au lendemain, qu'il sut moins difficile. Je crois qu'il serait aussi inutile qu'ennuyeux de vous détailler les petites incommodités qu'il essuya. D'abord la rosée du matin, le chaud de l'après-midi, le serein, et quelquefois la pluie de la nuit. Il n'eût pas aimé fortement si ces sortes de choses eussent fait impression sur lui. Mais voici des disgrâces de plus de conséquences. Infatigable, c'était le nom de son cheval, était un animal qui marchait par routine et qui allait toujours son droit chemin. Il n'est roc escarpé qui pût l'arrêter. S'il eût trouvé une maison sur sa route, il se fût guindé sur les toits plutôt que de se détourner. C'était son allure. Il sautait les fossés, franchissait les haies, traversait les fleuves. Il eût passé des bras de mer. Vous jugez bien que quand il trouvait des bois, il se jetait dans le sort. C'est justement ce qui lui arriva le second jour de sa route. Comme il était fait, les ronces ne trouvèrent pas à mordre sur lui. Mais Gracieux ne l'était pas. Il fut inhumainement déchiré. Et le sort, pour le régaler encore de quelque chose de pis, le conduisit dans une plaine sablonneuse, où tout ce qui se trouva dans l'air de cousins, frelons, maringouins et autres insectes de cette espèce s'acharnèrent impitoyablement sur sa peau. Le lendemain, notre chevalier en eut une bien plus terrible. Mais il en fut consolé par la gloire qui en a consolé bien d'autres. Je pense ici, pour vous mettre plus au fait, devoir le prendre d'un peu haut. Deux rois de je ne sais quelle contrée, dont je ne dirai pas le nom, car je hais les anachronismes, et j'en ferai sûrement, je me connais. Deux rois, dis-je, se faisaient la guerre, sur je ne sais quel motif. Il fallait bien qu'il y en eût un, car on ne se fait pas la guerre pour rien. Je ne vois pas où serait le mot pour rire. Ces rois avaient assemblé de puissantes armées. On y voyait ceux qui cultivent les bords de la Garonne, du Tage, de l'Iber, ceux qui se baignent dans le Pactole, ceux qui boivent les Gobelins, et ceux chez qui se couche le soleil, et ceux qui le voient toujours en son midi, et l'Américain farouche, et le Normand. « Monsieur l'abbé, dit la marquise en l'interrompant, ne pourriez-vous pas nous faire des descriptions moins savantes ?»« Sans contredit, mesdames, reprit l'abbé, cela veut dire qu'il y avait bien du monde dans ces armées-là, qui se trouvèrent sur le chemin que faisait Gracieux. La mêlée était alors dans tout son feu. Le voyageur voulut se détourner, non qu'il craignît les occasions de se signaler, c'est qu'il avait quelque chose de plus pressé à faire. Il essaya de faire prendre une autre route à Infatigable, mais ce bon coursier, qui, quand il voulait, n'avait ni bouche ni éperon, continua sa route à travers les lances, aussi légèrement que s'il n'eût traversé que des guérets. Il s'enfonce dans les escadrons, renverse de son poitrail à droite et à gauche tout ce qu'il rencontre. Gracieux, de son côté, qui n'avait point d'armes, mais qui savait se comporter dans les occasions, faisait des merveilles à coups de poing. Il ne rencontra point de nez dont il ne fit ruisseler le sang. On lui portait des coups. Il eut même quelques blessures assez légères. Mais sa bonne fortune le tira de tout. Il traversa heureusement l'armée que son passage mit si forte en déroute qu'elle fut taillée en pièces un moment après. Ainsi, le sort d'une bataille fameuse fut décidé par quelques coups de poing donnés à tort et à travers, dont le parti vainqueur s'appliqua tout le mérite. L'action de Gracieux se fit remarquer. Un des chevaliers de l'armée en déroute, de ces gens qui s'éprennent volontiers de la belle gloire, fut tenté de suivre notre héros pour faire connaissance avec lui. Il laissa fuir les siens, à qui apparemment il ne prenait pas grand intérêt, et suivit Gracieux au petit galop de son cheval. « Généreux chevalier, lui dit-il, je suis du parti vaincu, mais je ne saurais me refuser aux belles actions. Vous venez d'en faire une qui mérite un laurier immortel. Quoi, si jeune et sans armes ? Ah, permettez que je me joigne à vous pour ne m'en séparer jamais. J'ai quelques vertus, j'ai du zèle. Si mon amitié ne peut vous être agréable, je tâcherai de vous la rendre utile. » Chevalier, lui répondit Gracieux, la franchise de votre procédé me touche sensiblement. Mais quand vous me demandez mon amitié, savez-vous quel souhait vous faites ? Vous voulez partager ma fortune. Hélas, je n'ai que des malheurs à vous offrir. Eh, qui serais-je ? Reprit vivement l'inconnu. Si m'offrant pour votre ami, je refusais de m'associer à vos malheurs. Non, Seigneur, si vous me permettez de vous suivre, peu m'importe de quel œil la fortune me regarde. Je ne sentirai jamais que les revers qui tomberont sur vous. Mais j'entrevois un bocage frais, j'entends un ruisseau qui murmure. Descendons sous ces ombrages. Avant de faire l'office d'ami, souffrez que je fasse celui de confident. D'ailleurs, vous devez avoir besoin de repos. Ah, vous avez donné les plus horribles coups. Enfin, on ne vous connaît dans l'armée que sous le nom du chevalier des coups de poing. Seigneur, reprit modestement Gracieux, vous faites trop valoir une action très médiocre. Elle m'a fatigué, il est vrai. Mais telle est ma destinée, que contre l'ordinaire de tous les hommes, ce n'est que par des fatigues nouvelles que je me délasse des fatigues que j'ai souffertes. Je ne puis prendre aucun repos. Je ne m'en plaindrai pas. Le prix qui m'est proposé est bien au-dessus de tous mes travaux. Je vais vous faire le récit de mes infortunes. Je sais qu'il n'est ni convenable, ni usité, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'usage, de compter chemin faisant ses malheurs. Mais par ce que je vous dirai par la suite, vous verrez que je suis dans l'impuissance de faire autrement. Alors, Gracieux, non sans laisser échapper quelques soupirs, fit un détail circonstancié de toute son histoire, que l'inconnu interrompit par quelques exclamations qu'il varia du mieux qu'il put. « Eh bien, Seigneur, lui dit Gracieux, dès qu'il eut fini, êtes-vous maintenant curieux de me suivre? Vous semblerait-il doux de passer les jours, les nuits à cheval, de vivre de fruits sauvages, enfin de mener la vie que je mène, vous qui n'y seriez engagé que par le motif de l'estime ou tout au plus d'une amitié naissante? Quoi, Seigneur? Répartit l'inconnu. Douteriez-vous de ma sincérité? L'attachement que je vous voue est dans toute sa force. Je ne sais pas aimer à demi. Mais il est nécessaire, pour vous inspirer la confiance que je mérite, que je vous dise à mon tour qui je suis. Je ne vous demande qu'une grâce. Mon cheval se fatigue. Souffrez que je partage le vôtre. Il est d'une nature à ne pas plier sous un fardeau de plus. Je serai plus près de votre oreille. Je parlerai plus commodément. Et vous m'en entendrez mieux. » L'inconnu exécuta son projet dans le moment, et commença ainsi son histoire. Fin du chapitre 6, enregistré par Ezoie, en Belgique, en juin 2008.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.